Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai privilège pour moi d'être ici, une vraie joie aussi de partager ce moment ensemble avec le Seigneur. Alors c'est vrai que Eric m'a présenté comme le visiteur synodal. Il y a aussi un autre visiteur synodal qui est parmi nous, Benjamin Thuriot, qui était dimanche passé à Lyon. Donc on se croise, hein, sans le vouloir véritablement. Et il a eu une parole à la fois prophétique, bienfaisante, en disant que nous étions une église formidable. Il n'a pas chanté, vous savez, le formidable, mais enfin, en tout cas, il a parlé d'un conseil formidable, d'un pasteur un peu moins, mais enfin. Mais j'ai envie de reprendre ces mots pour me les approprier. Selon l'Évangile, selon Benjamin, je peux vous dire que vous avez un conseil formidable, vous avez un pasteur formidable, et je suis sûr que vous êtes une église formidable. Et je vous transmets aussi les salutations de votre église sœur de Lyon. Évidemment, il y a quelques représentants ici avec moi. Merci pour votre présence. Alors, quand on est visiteur synodal et qu'on doit apporter la prédication, on se demande toujours, qu'est-ce qu'on va dire? Il nous faudrait un thème, un texte qui soit porteur. Une église saine et missionnaire, pleine de vie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. J'aurais pu choisir ce genre de texte. Mais j'ai envie de parler d'un thème un peu particulier ce matin, le thème de la souffrance. Vous allez me dire, c'est moins vendeur, peut-être moins mobilisateur pour une église, mais je vous prie de garder patience à mon égard, peut-être qu'à la fin vous pourrez dire quand même amen à ce que je vous aurai partagé. Ce pourquoi j'avais envie de vous partager ce thème, mais vous allez voir, ce n'est pas la souffrance le thème essentiel, c'est bien plus fort, plutôt le réconfort apporté par Dieu, bien évidemment. Mais je discutais il y a quelques semaines en arrière avec une maman de l'école, d'origine juive, bouleversée par à la fois ce qui se passait au Proche-Orient, en Russie, en Ukraine, et encore plus près d'elle, de ce petit enfant dont elle venait d'apprendre le cancer à peine 15 mois. Et sachant que je suis pasteur, vous imaginez qu'elle m'a interpellé. Quelle réponse as-tu à me donner? Alors, en bon théologien, je lui fais un bel exposé sur le sens du péché, la souffrance. Non, non. Je lui ai dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour garder le silence face au non-sens de la souffrance. Et ça m'a fait réfléchir à quelle est la mission, quelle pourrait être la mission de notre communauté là-bas à Lyon, et je crois aussi à Cannes, face à un monde en souffrance. Est-ce qu'il nous faudrait, comme les stoïciens, dans une apathie comme ça, réjouissante et enthousiasmante, de chanter la joie sans cesse? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus profondément et découvrir au creuset les épreuves et les souffrances qui nous entourent et que nous traversons, quelque chose du réconfort de Dieu qui pourrait être contagieux? Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin à travers un texte, une lettre de Paul aux Corinthiens. Je crois que vous connaissez bien les Corinthiens, donc je ne vais pas aller beaucoup dans le contexte, si ce n'est rappeler juste un petit point. Ce que l'on reprochait à Paul, vous le savez vraisemblablement, je pense que vos pasteurs, pasteurs stagiaires vous l'ont rappelé, Paul était peu éloquent, semble-t-il, à l'époque, toujours en train de se plaindre de sa souffrance, et puis il susurrait là des bruits peut-être dans les communautés chrétiennes de Corinthe, et particulièrement chez les Corinthiens. Comment se fait-il, si Paul est un envoyé de Dieu, qu'il souffre autant? N'est-ce pas là un signe du désaveu divin? Et voici comment Paul va prendre sa plume, ou faire des textos, je ne sais pas, mais enfin, il va prendre sa plume et écrire la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, qui n'est pas vraiment la deuxième, mais ça, je vous épargne. Chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le confort, le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance. Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort, et cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui, lui qui nous a délivrés d'une telle mort, qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. Et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Notre Dieu et Père, ta parole est la vérité. Qu'elle vienne par ton esprit rejoindre nos cœurs. Qu'elle puisse donner vie à ces mots. Et qu'ensemble nous puissions apprendre à mieux te connaître, mieux t'aimer, mieux te servir pour rayonner de ton amour, Seigneur. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un texte lourd de sens, très lourd de sens. Paul écrit donc à cette église de Corinthe dans laquelle on lui reprochait d'être un petit peu faible et souffrant. Peut-être contaminé par la culture philosophique stoïcienne, cette apathie. Mais peut-être aussi avec un fond peut-être de culture juive et de ce principe de rétribution. Si vous souffrez, alors Dieu n'a peut-être pas un regard si favorable. Alors imaginez si vous prétendez être appelé par Dieu, avoir un ministère rayonnant, et voici que vous traversez épreuve sur épreuve. Et que fait Paul ? Il aurait pu s'attarder en une ou deux versets comme ça. Je suis Paul. Je suis l'apôtre appelé par Jésus-Christ. S'il vous plaît, arrêtez vos débats. Non. Vous avez remarqué la façon fraternelle dont il s'exprime, partageant sa propre expérience de la souffrance. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie. Paul ne fait pas un discours théorique, philosophique sur le sens de la souffrance, mais il partage son expérience, sans la cacher, sans même non plus la survaloriser. Autrement dit, la souffrance n'est pas une anomalie, ni dans son ministère, ni encore moins dans la vie chrétienne. Mais elle va être pour lui, et c'est ce qu'il va partager, le chemin par lequel Dieu s'est ouvert. Le chemin par lequel il a découvert le réconfort de Dieu de façon incroyable et extraordinaire, et c'est ce qu'il veut partager aux Corinthiens. Alors vous le savez, la souffrance, nous la subissons à différents niveaux. Cette souffrance que nous subissons à cause des autres, à cause aussi de mauvaises décisions qu'on a prises, aussi à cause des conséquences du mal qui se propage dans notre monde, et nous sommes souvent en droit de nous questionner sur le sens de cette souffrance. Y a-t-il un sens ? Mais surtout, comment y faire face ? Comment la surmonter ? Je ne sais pas si vous vous autorisez ce genre de questions. Et Paul, je crois en frère dans la foi, vient nous livrer quelques perles merveilleuses, quelques perles de la relecture de son vécu. Alors il y a pire que lui, mais n'empêche qu'il partage cette souffrance vécue et surtout son expérience de la fidélité de Dieu. Et il a découvert dans cette souffrance, dans ce chemin de souffrance, qu'il y avait un bien, un plus grand bien que Dieu avait en réserve. Un bien qui n'est pas nécessairement toujours la délivrance de cette souffrance, mais quelque chose de bien plus profond. Et, vous l'avez remarqué, il commence dans son exposé par pointer les regards vers celui qui a souffert et qu'on a encore chanté. Celui qui est son maître et notre maître. Celui qui est notre modèle, notre Seigneur Jésus-Christ. N'a-t-il pas souffert le martyre ? N'a-t-il pas prié pour éviter le calvaire ? N'a-t-il pas crié à son Père, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors Jésus n'a pas cherché à souffrir pour souffrir, comme si c'était un état de sainteté idéale. Mais c'est bien à cause de ses souffrances et grâce à ses souffrances que le mal va avoir un point final. Le mal médité par les hommes contre Jésus, Dieu l'a transformé en bien par cette croix. Alors Paul marche sur les sentiers empruntés par son maître. De cette souffrance et de cette mort de Jésus vient la victoire, le réveil des morts, la résurrection des morts. Et heureusement, chers amis, heureusement que Dieu n'a pas répondu oui à la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Sinon, nous aurions une moins bonne nouvelle à annoncer. Imaginez un instant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, mais, face à tant de souffrances, il a reculé. Des milliers d'anges sont venus le chercher. Aussi, la vie éternelle nous est privée. La mort nous est destinée. Alors ça, ce n'est pas l'Évangile. Heureusement, gloire à Dieu, Jésus est allé jusqu'au bout, acceptant cette souffrance et la souffrance de la croix pour apporter la consolation qu'est cette espérance dans la vie éternelle. Et c'est là ce que vit Paul. Il marche dans les pas de son maître. Paul, les Corinthiens, nous-mêmes qui servons Dieu, nous servons un Dieu qui ne nous promet pas d'épargner la souffrance à tout prix, vous le savez. Mais il nous promet assurément de découvrir quelque chose de sa grâce, de son amour, dans un creuset qui purifie comme le métal précieux. Et Jésus nous a devancés sur ce chemin-là. Chemin qui ne s'est pas terminé avec la mort, mais chemin qui s'ouvre et qui nous ouvre à la vie et à la victoire. Jésus a vaincu le mal et il nous promet de traverser ce chemin de souffrance avec nous. C'est quand même extraordinaire, ça. Extraordinaire. Nous avons un Dieu, c'est une petite parenthèse, hein, mais nous prions, nous adorons et nous avons un Dieu qui est un homme, qui a connu nos souffrances. Et vous imaginez combien il peut nous rejoindre dans tout ce que nous vivons. Et ça, c'est le grand privilège de notre foi. C'est une grâce. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et Paul a connu tout un tas de souffrances, comme celle du Christ. Il y a eu ces souffrances physiques et psychologiques, la lapidation à l'istre, la maladie, les oppositions, la souffrance psychologique avec toute cette pression, cette anxiété de s'occuper de toutes ces églises. Il y a eu les attaques spirituelles de tous ordres. Mais il a complété, dit-il, les souffrances du Christ à la croix. Complété parce qu'il a continué l'œuvre du Christ envers et contre tout. Mais au creuset de ses souffrances, il y a découvert, peut-être dans le froid de sa cellule, alors que les larmes coulaient, il a découvert le plus grand bien, un plus grand bien. Le premier que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il me semble que Paul a trouvé au creuset de cette souffrance, patiemment endurée, surmontée. Il a découvert une connaissance de Dieu et de son caractère, de sa compassion de façon plus approfondie et de façon plus personnelle. Parce que vous le savez, en matière de foi, il y a la théorie et la pratique. Si je vous dis que Dieu est le Père de toute consolation, vous pourrez me dire facilement « Amen ». Mais qu'en sera-t-il quand la tempête sera là? Et c'est ce que Paul a appris, il me semble. Il a découvert le secours de Dieu. Un Dieu qui aime, qui accompagne. Il s'est fait sienne toutes ces paroles de l'Ancien Testament. « Consolez, consolez mon peuple !»« Consolez, consolez Paul !» Consolez, consolez Jeanne, consolez, consolez Eric. Il s'est approprié toutes ces vérités bibliques dans le creuset de sa souffrance. Il a découvert ce Dieu à la compassion sans limite. Un Dieu qui, au creuset de sa dépression, de son affliction dévastatrice en Asie, l'a relevé. De même, en effet, dira-t-il, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi, notre encouragement abonde par le Christ. À chaque souffrance, chaque détresse, chaque épreuve, Paul y a rencontré Dieu. Là, au virage de sa vie, y compris lorsqu'il était au bord du gouffre, dans le désespoir le plus profond, le Christ, par son esprit, est venu à sa rencontre. Peut-être par un tapotement sur son épaule, par le souffle de son esprit en lui-même. Il a découvert aussi cette grâce profonde, immense, qui suffit alors même que nous ne connaissons pas la délivrance, alors même qu'il a prié par 3 fois, vous connaissez ce passage, pour que Dieu lui ôte cette écharde. Je me suis posé la question, est-ce seulement la 3e fois qu'il a entendu « Ma grâce te suffit » ou est-ce qu'il l'a entendu à chaque fois ? Et que c'est la 3e fois qu'il s'est approprié ? Question exégétique, pour votre pasteur, peut-être. La grâce de Dieu suffit. Grâce qui est promesse de présence, promesse d'amour et de compassion, mais qui n'est pas nécessairement promesse de délivrance ici et maintenant. Mais c'est ce que Paul partage. Il y a eu tantôt délivrance, tantôt réconfort de Dieu, tantôt consolation, tantôt victoire. Mais en toutes choses, Dieu s'est manifesté comme le Dieu de toute consolation, de réconfort, de toute manière, si vous voulez. Et il a découvert, ce cher Paul, combien il avait besoin de plus en plus de dépendre de Dieu. L'autonomie, se croire capable de faire face, vouloir compter sur ses propres forces, ses propres ressources pour affronter ses défis, vraisemblablement, ça devait être le caractère de Paul. Mais ça, c'est bien quand les temps sont calmes, mais quand la tempête est plus forte que notre embarcation, alors qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'il a découvert, Paul ? À la fois ses limites et la présence bienfaisante de Dieu. Ça, c'était le premier bienfait. Mais il y a un second, que je trouve intéressant et que je voudrais encore vous partager. Une autre béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés par Dieu et je crois aussi par les frères et sœurs. Parce que ce que Paul voit et perçoit dans son expérience douloureuse, bien sûr, cette expérience qu'il a vécue du réconfort de Dieu. Dieu réconforte, Dieu encourage dans toute détresse. Mais s'il a été réconforté et encouragé, vous l'avez vu, ce n'est pas uniquement pour lui, mais pour qu'à son tour, il puisse encourager, réconforter. Que son expérience personnelle et spirituelle puisse servir à l'édification, à l'encouragement des uns et des autres. L'expérience du réconfort de Dieu, pour Paul, le rend capable de réconforter à son tour. Et c'est ce que vont vivre les Corinthiens. Les Corinthiens qui recevront à travers Paul un réconfort par le partage de cette expérience, par la compassion partagée par Paul. ils recevront vraisemblablement aussi quelque chose de la présence de Dieu. Mais Dieu, je crois, chers amis, a voulu l'Église comme une communauté où l'on vit la souffrance, l'épreuve, comme un corps. Et vous le savez, si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et je crois que Dieu a imaginé l'Église comme ce lieu de partage, de réconfort, de consolation dans l'épreuve et par la prière, justement au milieu d'un monde en souffrance. Dieu a voulu que du réconfort, de la consolation que nous recevons de lui, nous puissions à notre tour encourager, réconforter, par un geste, par une prière, par une parole. Et il est intéressant ici, dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, que Dieu ait choisi de lier la délivrance ou son intervention pour Paul dans l'avenir aux prières des Corinthiens. Paul ne s'arrête pas là. « J'ai reçu le réconfort de Dieu, un réconfort qui me permet de vous réconforter. Mais à votre tour, priez, priez pour moi. » Parfois, vous savez, la consolation, le réconfort, ça se résume à une prière. Pas nécessairement à des grandes litanies ou des grands discours. Alors l'Église, si j'avais un élément à vous partager ce matin, je crois que l'Église pourrait être cette communauté où ceux qui ont été consolés hier, ceux qui ont été éprouvés hier et réconfortés par Dieu, viennent réconforter celles et ceux qui sont éprouvés aujourd'hui. Un réconfort, j'ai envie de dire, contagieux. Et je crois, mais peut-être que je dis des simplicités, mais je crois qu'un chrétien ne doit pas cacher son désarroi, même devant des non-chrétiens. Ses souffrances, pour faire bonne figure, ou donner l'impression, excusez-moi, d'une garantie 100% sans épreuve si vous devenez chrétien. Non. Un chrétien partage aussi le sort des non-chrétiens. Il n'est pas plus, pas moins épargné par la souffrance. Mais il va puiser en Dieu sa consolation. Une consolation qui peut aussi passer par la médiation des frères et des sœurs, par la prière. Et ça change tout ça. Parce que, chers amis, vous ne priez pas un Dieu sur son nuage qui ne comprend rien. Nous ne prions pas des divinités grecques qui s'en amusent bien de nous voir souffrir. Mais un Dieu qui est venu à notre rencontre, qui a connu les souffrances, le désarroi, l'angoisse, l'anxiété, la tristesse. Et c'est cela, je crois, à mon sens, qui peut bien plus toucher nos voisins, nos collègues, nos amis, nos camarades. Pas que tout nous réussisse, pas que nous soyons vaccinés contre toutes sortes de souffrances, pas que nous ayons à présenter un grand avantage, chers amis, d'être chrétien, si vous acceptez le Christ, une garantie à 100% de ne plus jamais souffrir. Non. Mais dans la tempête de nos vies, nous expérimentons cette consolation de Dieu, ce réconfort que nous pouvons partager simplement. Et ce réconfort que nous pouvons partager n'est pas nécessairement des grands discours, une grande apologétique, une grande défense de Dieu, mais peut-être juste un geste, un silence, une prière. L'Église est une communauté de réconfortés appelés à réconforter. Personnellement, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que vous le savez, nous sommes tous soumis à ces épreuves, à ces souffrances, y compris les pasteurs, ne sont pas plus épargnés, vous le savez. Et personnellement, nous vivons en famille des temps difficiles, très difficiles, depuis 2 ans et demi. Et vous savez quoi ? Ce qui m'a touché le plus dans cette histoire, le plus, c'est quand à la fin du culte, quelques-uns sont venus me voir pour me dire, avec les larmes aux yeux et un regard profond, qu'ils ont vécu la même chose que nous. Et quel est le fruit que ça produisait chez eux, chez ces personnes pour nous? C'était la prière et la compassion. Et que c'est touchant de voir dans le fond du regard de votre frère ou de votre sœur la compassion. Une compassion sincère et réelle, parce qu'ils ont vécu à la fois cette épreuve que vous vivez et aussi quelque chose du réconfort de Dieu. Alors, pour conclure, j'ai encore du temps, Eric. Pour conclure, je crois et je suis convaincu, sinon je ne serais pas là devant vous, que la France aussi a besoin de l'inconfort de Dieu, hein, c'est sûr. Et on prie pour ça, hein. D'ailleurs, il va se servir de l'église de Cannes, entre autres, et de toutes les autres églises. Mais la souffrance, je crois, n'est pas un signe du désaveu de Dieu. Pour Paul, ni nous. Cette souffrance, je crois, et j'en suis convaincu, peut être le chemin par lequel la grâce de Dieu vient nous rencontrer. Mais elle peut également, et c'est ce qui a été le cas pour Paul, démolir ce que nous avions parfois bâti de tordu. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul. Nous avons appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu. Et c'est au creuset de ce retournement intérieur de Paul que la grâce l'a poussé jour après jour à voir tout ce qu'il avait construit comme assurance en lui-même, comme confiance, toutes ces briques à s'effriter les unes après les autres. Et c'est là, comme Élie autrefois, peut-être, face à ces ruines, que Paul a entendu le secours de Dieu. Paul a vu s'effondrer vraisemblablement tout ce qu'il avait bâti, et ça a commencé, vous le savez, au chemin de Damas, tout ce qu'il avait bâti comme un solide bâtiment en béton, l'assurance qu'il faisait bien, qu'il pouvait compter sur sa force, ses capacités, pour, au demeurant, causer bien des souffrances à l'Église du Christ, mais ça. Mais ce beau bâtiment qu'il avait construit, cette peut-être tour haute, était devenu comme un bouclier contre la grâce de Dieu elle-même. Et il a fallu toutes ces épreuves et ces souffrances pour qu'il découvre qu'il avait besoin de cette grâce. Et quand tout s'effondre dans notre vie, vous le savez, tout ce que nous croyons de solide, d'indéfectible s'effondre et que tout est en ruine, eh bien, c'est parfois là que la grâce de Dieu vient à notre rencontre. Et il nous faut, je crois, l'accueillir. Il ne faudrait surtout pas essayer de rebâtir ou de monter quelque échafaudage devant la façade branlante de nos convictions, mais apprendre à rester là, auprès de nos ruines, à nous asseoir dans les décombres, sans amertume, sans adresser des reproches ou sans accuser Dieu. Juste rester là, comme un enfant qui rêve que son père va tout raccommoder. Mais pour ce faire, je crois, et j'en terminerai là, il faut qu'on nous fassions tomber certains freins que nous avons peut-être, je suis sûr que non, par rapport à la souffrance. Le premier frein, c'est de ne pas oser en parler. Alors il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, vous le savez. Mais il me semble important de s'ouvrir aux frères et aux sœurs de confiance. Mais, et ça c'est Lita Basset qui le dira, il est important de reconnaître qu'aucune démarche n'est fructueuse sans le respect de soi-même. Ne pas se faire violence et le respect d'autrui. Savoir prendre le temps pour exprimer ce que nous ressentons est un frein à lever. Le deuxième, c'est de ne pas savoir à qui en parler. Je n'ose pas en parler. Alors, rares sont les personnes dans la Bible qui ont fait face seules à la souffrance. Alors, il y a les amis de Job qui sont venus, mais dès qu'ils ont ouvert la parole, la bouche, bon, c'était... Mais leur présence a été bienfaisante pendant 7 jours. Et nous avons besoin les uns des autres. Des éclaircissements, des prises de conscience se font bien sûr en toutes circonstances, mais nous avons besoin aussi d'un compagnon ou d'une compagnon de route pour cela. Alors ce n'est pas une obligation, vous le savez, l'Esprit Saint souffle où et quand il veut, mais je crois qu'il peut aussi se servir de votre prochain, votre frère, votre sœur, pour être votre ventilateur, pour diffuser ce souffle de l'Esprit. Et puis enfin, dernier frein peut-être, il y a pire que moi. On n'ose pas dire, parce qu'il y a pire que moi, X ou Y souffre plus que moi, il est plus malheureux que moi. Alors bon, j'ai pas trop le droit de me plaindre. Mais toute souffrance est souffrance. Il n'est pas de graduation, de comparaison. Elle est unique. Le mal est ce qui fait mal et chaque souffrance est unique. Alors ne nous épargnons pas du potentiel et du possible réconfort de Dieu parce qu'on se priverait de quelque chose de la mission de Dieu pour vous. Et je le crois que nous sommes souvent, le plus souvent, emprunts plus de philosophie grecque, surtout stoïcienne, avec cette impassibilité, cette éradication de la souffrance. Mais dans la pensée juive, chers amis, il y a de la place pour la plainte. Et elle fait souvent partie du chemin du relèvement. Et je voudrais terminer, cette fois-ci je termine vraiment, par cette petite histoire qui m'a toujours touché et que je voudrais vous livrer, après quoi on priera. Cette histoire d'une dame qui raconte ceci. Alors que mon mari, Franck, et moi vivions au Pakistan il y a plusieurs années, notre bébé de 6 mois est décédé. Un vieil homme qui avait entendu parler de notre chagrin est venu nous réconforter. Il a dit ceci, « Une tragédie comme celle-ci ressemble à une plongée dans l'eau bouillante. Si vous êtes un œuf, votre affliction vous rendra dur et insensible. Si vous êtes une pomme de terre, vous en sortirez souple, flexible, résilient et malléable. » Et cette dame poursuit, « Cela peut sembler drôle, mais il y a bien des fois où j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, laisse-moi être une pomme de terre. » Alors, chers frères et sœurs, pardonnez-moi par avance, mais j'ai envie de nous exhorter, soyons des pommes de terre. Pour que de nos épreuves, nous apprenions à connaître Dieu de façon plus intime, à recevoir de lui la force de consolation pour tenir, attendre la délivrance, mais aussi pouvoir encourager les autres à être à leur tour des pommes de terre. Amen. Je vous invite à prier, si vous le voulez bien. Notre Dieu et Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui ne cache pas la réalité, la vérité de nos vies. Merci parce qu'elle nous dit combien tu nous comprends. Et tout ce que tu mets en œuvre pour nous rejoindre dans le creuset de nos épreuves et de nos souffrances. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette consolation par l'Esprit, mais aussi pour celle que tu nous donnes par nos frères et sœurs, par l'Église. Donne-nous, Seigneur, encore de rayonner de cela, de cette consolation, de ce réconfort disponible pour toutes et tous. Viens, Seigneur, nous transformer, nous rendre malléables. Donne-nous d'être des pommes de terre pour que nous puissions ensemble rayonner de ton amour et de ton réconfort. Amen.